L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 17h30. Nous sommes probablement en l'an 865. Les Vikings, peuple de tradition orale, porté par le vent et les sagas, ont laissé filer l'exactitude des dates. Nous sommes au cœur de l'hiver, vraisemblablement en février, un jour de malheur gris et pluvieux. Disons, le 12 du mois. Ce que nous savons cependant, c'est que nous sommes en Northumbrie, qui se situe au cœur du nord de l'Angleterre actuelle. Aujourd'hui, ici, au cœur de ce royaume médiéval, est mort un roi. Et pas n'importe lequel. Ragnar Lodbrok est jeté dans une fosse à serpents par le souverain local qu'il a capturé et il meurt. Dans quelques instants, bien plus au nord, ses cinq fils, porteurs de l'héritage légendaire de leur père, seront tous les cinq avertis de la catastrophe par une figure aussi mystique que terrifiante. Un homme vêtu de noir et l'œil droit manquant s'avance vers eux. Il est 17h30, l'heure H de mon histoire. Les cinq fils de Ragnar Lodbrok sont répartis dans trois endroits différents du monde viking. Deux sont en campagne militaire. Un aiguise sa hachette. Le dernier frappe le fer afin d'en faire une épée dans la forge de la capitale du royaume de Ragnar, Kattegat. Tous ignorent encore que bien loin d'eux, à la suite d'une expédition catastrophe durant laquelle il a été fait prisonnier, Ragnar est tué par un roi chrétien qui attendait cette vengeance depuis longtemps. Jeté dans une fosse aux serpents comme un vulgaire criminel, trimballé dans une cage et exposé aux yeux de tous, torturé, souillé, le légendaire guerrier a succombé au venin, terrible, implacable. Sitôt arrivé au Valhalla, l'espace réservé aux valeureux guerriers dans le royaume des dieux, il est conduit par les Valkyries et accueilli par les Ases. Il a immédiatement fait envoyer un messager à ses fils, et pas n'importe lequel. Odin, dieu des morts, de la victoire et du savoir, quitte le panthéon nordique et enfile ses bottes de marche et son manteau de fourrure de loup noir. Porteur d'un message funeste, il s'avance au milieu des mortels. En bord de mer, quelque part en Scandinavie, Björn Côte de Fer et son frère Vitsurk sont en compagnie d'autres héros de ces temps anciens. Cheveux tressés et rasés sur le côté, une peau d'ours sur les épaules. Björn, l'aîné des fils de Ragnar, est assailli par un pressentiment. Derrière lui, le vent se lève. Joueur, mesquin. Une nuée de corbeaux envoyée par le destin vient lui tourner autour et instinctivement, le jeune homme se retourne comme appelé par un bruit sourd et une voix venue d'outre-tombe. La voix annonce. Comment les marcassins grogneront quand ils entendront comme le vieux sanglier a souffert. À son frère, il demande « Est-ce que tu l'entends, toi aussi ?» Björn est au milieu des oiseaux qui l'entourent. Il saisit l'épaule de son frère par surprise. Odin s'est posté au plus haut point possible. Il les fixe avec gravité. L'aîné de la fratrie lâche alors dans un sanglot « Mon père est mort !» Loin de là, à Kattegat, Odin, la chevelure grise tirée en arrière, la tenue noire en étendard, s'avance sur les pontons du port et, sans attendre, se dirige vers la forge. Là, Ivar le désossé, infirme, incapable de marcher, lui aussi, fils du légendaire guerrier, frappe de toutes ses forces sur une enclume afin de façonner une épée. Comme ses frères. Il sent déjà au fond de sa gorge une boule pleine de pressentiments. Il frappe régulièrement sur ce morceau de fer en fusion et ne remarque pas tout de suite l'ombre du roi des dieux qui s'est glissée derrière lui. Celui-ci s'exclame « Ton père est mort, tué par des serpents. Dans la terre froide du fer se trouve Ragnar. » Comme seule réponse, le jeune homme frappe de plus belle sur cette enclume. Son hurlement perce les nuages et arrive aux oreilles de Hub, son frère, qui lui rassemble ses flèches pour partir chasser à plusieurs kilomètres de là. À la lisière de la forêt, rafraîchi par le cours d'eau, il entend au loin le tonnerre qui gronde et qui menace. Sans dire un mot, Odin, cette fois, lui montre dans le globe de son œil vide le destin de son père. Le vent s'engouffre violemment dans les branches, menace déjà de casser les troncs les moins robustes. Le dieu des dieux est déjà parti. Ses corbeaux venant du Valhalla couvrent les branches et emplissent le ciel qui se noircit d'une nuée coassant le malheur et annonçant déjà la vengeance terrible qui se prépare. Le dernier des fils du roi Ragnar s'appelle Sigurd, plus faible que ses frères. Bien plus émotif, bien moins taillé pour la guerre aussi, il est en train d'affûter sa hachette pour passer le temps. À l'apparition d'Odin marchant vers lui, il comprend, sans même entendre le moindre mot. Pour le réconforter, comme frappé par tant de sensibilité, la divinité à l'œil manquant pose une main sur son épaule avant de prendre la direction des falaises. Ce soir-là, et pour la première fois depuis la création du monde, les territoires vikings sont frappés par une tempête cataclysmique. Tombant directement du ciel, elle annonce le festin qu'Odin a préparé pour son nouvel arrivant, Ragnar Lodbrok, la terreur des chrétiens, défenseur de l'Olympe nordique, pourfendeur de monastères et tueur de rois baptisés sous l'égide du Christ. Depuis des décennies, le monde entier le craint. Magnifique voyageur passé de fermier à Jarl, un seigneur si vous voulez, il a franchi toutes les étapes avant de se hisser au rang des dieux. La tempête, elle, fait rage, encore, renverse les feux, arrache les toitures. Ses fils ne sont pas dupes. Ils comprennent les messages divins qui annoncent la mort de leur père. Les branches se détachent des arbres, les racines se mettent à nu. Une véritable apocalypse. Un Ragnarok se prépare. Odin perd son plus fidèle serviteur, celui qui mit Paris à sac, qui réduit en cendres toute une partie de l'Angleterre. Les dieux, ce soir, lui rendent hommage au cœur de cette tempête dont les gouttes qui tombent, violentes, s'éclatent avec fracas, avec colère. La mort de Ragnar signifie peut-être aussi la fin de la domination viking. Ses fils vont-ils pouvoir s'entendre ? Mettre à profit l'héritage de leur père ? Nul ne le sait encore, tant les incertitudes qui découlent de cette disparition sont grandes. Les éléments, toute la nuit, vont se déchaîner, provoquer des dégâts immenses et durables. Bjorn, se risquant à sortir de la halle qui l'abrite, part en solitaire au milieu du vent violent et des coups de tonnerre qui s'écrasent avec fracas tout autour de lui. Ses larmes se mélangent à la pluie qui coule sur ses joues, mais il sait avec certitude où il se rend. Il veut retourner là où il a vu Odin, au bord de la falaise. Et déterminé comme jamais, la barbe balayée par les vents, il se dirige vers la mer. Sur le chemin, des visions l'assaillent sur son enfance, sur les moments de franche sagacité de la part de son paternel et dont il a été témoin, sur les combats vécus ensemble aussi. Il se remémore sa propre blessure, celle qui fut presque mortelle sous les murs de Paris et qui lui a valu le surnom de Bjorn Côte de Fer. Il continue sa marche dans la brume et dans l'obscurité et finit enfin par atteindre la mer qu'il voit se déchaîner. C'est l'endroit qu'il choisit pour hurler, à l'écart des autres, toute sa frustration, sa tristesse, sa colère dans un violent torrent sonore qui vient couvrir le bruit de l'orage et des vagues. C'est là, là au cœur de ce légendaire épisode, qu'il entend les derniers mots de son père. Cela me réjouit de savoir qu'Odin se prépare pour un festin. Bientôt, je boirai de la bière dans des cornes incurvées. Je n'entrerai pas dans la halle d'Odin avec crainte. J'attendrai que mes fils me rejoignent. Lorsqu'ils arriveront, je me délecterai des récits de leur triomphe. Les Ases m'accueilleront. Je meurs sans demander de pardon. Et j'ouvre les bras aux Valkyries qui me rappellent chez moi. Ainsi débute la légende de celui qui porta le monde viking jusqu'aux nues. Oh, n'ayez crainte. Plongez avec moi au cœur d'une saga que vous n'êtes pas près d'oublier. Notre histoire commence bien des années en arrière, à l'aube d'un été qui s'annonce bouillant pour les roitelets anglais, qui règnent chacun sur son petit royaume. Nous sommes le 8 juin 793, à Lindisfarne, un monastère situé sur une île sauvage au nord du pays. Une chaussée longue de 5 km, immergée à marée haute, relie les moines au royaume des mortels. En ce jour fatidique de l'histoire du monde, un bateau totalement inconnu des hommes de cette partie de l'Europe accoste sur la magnifique plage de sable qui entoure les bâtiments de pierre. Sur la plage, un homme de Dieu ramasse des coquillages. Il est assez âgé, se tient le bas du dos avec sa main, perclus de rhumatisme et de crampes dans les jambes. Il se baisse inlassablement à chaque trouvaille. Prenant un peu de hauteur pour faire une pause, il découvre que dans la crique, en contrebas, une grosse dizaine d'hommes en armes vient de débarquer. Boucliers, haches, épées. Ce qui se déroule devant ses yeux ébahis ne lui plaît guère. Et surtout, il ressemble à des démons. Barbu, les cheveux longs, il débarque sur les côtes d'un pays chrétien sur un navire à tête de dragon. Frémissant de terreur, il court aussi vite que ses vieilles jambes le lui permettent avertir les autres. Vite, les envoyés du diable arrivent pour s'en prendre aux fruits du Seigneur. Il est si apeuré qu'il en lâche son panier plein de crustacés et coquillages. Bientôt, il n'en aura plus besoin. La fureur viking arrive. Ragnar Lodbrok, sur cette plage, rassemble ses troupes. Prêt à l'attaque, il donne ses dernières consignes. Il y a peu, le jeune homme n'était qu'un fermier sans importance. Aujourd'hui, il est marié à Lagertha, la guerrière au bouclier et déjà père d'un fils. L'un de ses amis, un célèbre navigateur qui découvrira un jour l'Islande, Floki, lui a construit un navire. Une magnifique machine fendant les flots et traversant les océans. Un autre jour, un voyageur lui a appris une technique imparable pour se repérer dans l'étendue immense des océans et il a convaincu son jarl, son chef si vous préférez, de lui faire confiance. Il veut monter pour la première fois une expédition partant vers l'ouest. Personne ne croit en sa réussite et son départ n'est que le moyen pour ce vieillissant leader de se débarrasser d'un caillou dans sa botte. Mais alors que tout portait à croire qu'ils allaient mourir en mer, les voilà aujourd'hui sur une terre inconnue et face à un bâtiment de pierre imposant, magnifique. Oh, il ne sait pas où il est. Il l'ignore même totalement. Au loin, déjà, les cloches sonnent l'alarme. C'était le meilleur moyen pour provoquer son arrivée rapide aux portes du monastère. Comme un signal de ralliement, une mise en bouche. Les guerriers frappent sur leurs boucliers avec leurs armes. Le courage les envahit. Ils ignorent que derrière ces portes, de drôles de bonhommes rasés au-dessus du crâne et non armés sont terrorisés. Ils pensent voir arriver le diable en personne. Devant les portes en bois, somme toute modestes, de l'entrée du monastère, en se servant d'un pied de biche, les assaillants frappent sur les jointures des portes à coups de marteau. Le bruit régulier résonne dans toutes les têtes des moines réfugiés dans l'église principale du lieu. Le père supérieur est là, tétanisé comme tous ses disciples. Mais il tient bon et tente de rassurer ses ouailles. « Alors ne soyez pas effrayés, croyons en Dieu et prions tous ensemble !» résonne alors la dernière prière du monastère de Lindisfarne. Un peu plus loin, la porte flanche et des coups de botte viennent la terrasser définitivement. Les vikings pénètrent dans la cour persuadés de trouver des hommes armés prêts à en découdre. Mais pas un homme pour les accueillir. Rien. Pas une âme ne semble vivre en ce lieu. Des oies, des poules, oui, mais c'est tout. Les moines qui prient attirent leur attention. De l'extérieur, tendant l'oreille, Ragnar se dirige immédiatement vers la bonne porte et fait une entrée remarquée avec ses guerriers. D'un côté, les moines qui se regroupent derrière l'autel, tétanisés. De l'autre, des guerriers incrédules qui se demandent bien qui sont ces gens habillés tous de la même manière et qui ne sont pas armés. Un véritable choc des cultures. D'un geste, le père supérieur fait un signe de croix et reprend sa prière. L'un des hommes du Nord se saisit d'un couteau et lui plante dans la gorge. Cela ouvre un bal absolument terrible, durant lequel les pauvres moines ne sont que des proies sans défense, sans aucune résistance. Et les loups frappent une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. C'est l'hécatombe. La maison de Dieu devient un tombeau si sanglant que la croix en or en devient rouge et que les murs ne sont bientôt plus immaculés non plus. C'est un véritable massacre, indescriptible, inénarrable. Ragnar et les siens débusquent ceux qui se cachent et finissent par faire main basse sur les trésors du monastère. Un petit groupe de moines a pu s'échapper avec les reliques de Saint Cuthbert, mais le plus gros du trésor est resté là. Et pour les hommes du Nord en quête de richesses, c'est une découverte absolument époustouflante. Croix en or, pierreries sur des crucifix anciens, coupes et reliquaires, le tout réalisé dans des matériaux nobles. Sans rencontrer aucune résistance, les Vikings aventureux, les premiers en fait à fouler le sol de ce pays riche qu'est l'Angleterre, la Northumbrie en fait, pour être précis, s'en mettent plein les poches et décident même de ramener quelques prisonniers avec eux. Aucun geste de bonté ou de piété, non. Non, ils comptent revendre les moines en tant qu'esclaves une fois rentrés au pays. Pour beaucoup d'historiens, la date de ce premier raid en Angleterre coïncide avec le début de l'ère viking. Le monde chrétien occidental, lui, bascule dans l'incrédulité la plus complète. Qui sont ces hommes que personne n'a jamais vus avant? Leur barbe, leurs armes, leurs techniques de combat, tout semble nouveau. La peur gagne tout le pays et la rumeur se répand comme une traînée de poudre. Le retour de Ragnar au pays, lui, est triomphal, comme vous pouvez l'imaginer. Au milieu des coffres et des richesses, il se montre affirmé, projetant un nouveau départ dès la saison suivante. Mais son jarl commence à se méfier de lui et tente de pousser le jeune guerrier à la faute. Il ne peut cependant contenir la ferveur populaire autour de ce personnage si charismatique et empêcher un nouveau départ. Mais cette fois, Ragnar emmène un peu plus d'hommes avec lui, et surtout sa femme, la fameuse guerrière au bouclier. Après s'être informé auprès des prisonniers des us et coutumes de ceux qui l'attaquent, il se présente aux portes des villes de Northumbrie avec une idée derrière la tête. La société de l'époque est particulièrement religieuse. Les messes dominicales sont suivies par l'entièreté des communautés, soldats compris. Et donc, notre fourbe homme du Nord, totalement dépourvu de piété chrétienne, décide d'attaquer le dimanche. Ces hommes pillent, violent, massacrent, rassemblent les richesses et retiennent les gens dans l'église, tous rassemblés pour prier Jésus qui ne peut les sauver de la fureur du Nord. Là encore, lors de cette deuxième expédition, le succès est total. Et Ragnar a de plus en plus de partisans. Il pourrait même devenir jarl à son tour. L'ancien seigneur est vieillissant, critiqué pour son manque d'action et son manque de confiance. C'est donc lors d'un combat singulier rituel des croyances de ses adorateurs de Thor et d'Odin que les deux hommes vont s'affronter. Et sans surprise, le jeune loup prend le dessus sur le vieux qui laisse la vie et entre dans la légende. Ragnar devient jarl. Plus rien ne peut plus maintenant faire obstacle à sa montée en puissance. Il se remarie, la monogamie n'étant pas une obligation dans la tradition viking. 4 autres fils vont naître. Les raids vont continuer, élargissant chaque fois ses connaissances et la crainte qu'il suscite. Mais son coup d'éclat le plus symbolique, le plus total, est en préparation. Ragnar prévoit d'attaquer la puissance la plus souveraine de la chrétienté. Cette ville se trouve en Francie, la France d'aujourd'hui, et son nom résonne avec gloire dans le monde entier médiéval. Cette ville, c'est Paris.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Notre heure H aujourd'hui retrace la saga de l'un des héros nordiques les plus célèbres, les plus mystiques aussi, Ragnar Lodbrok. De simple fermier, le jeune homme s'est fait une place de choix en lançant le premier des raids vers l'Angleterre, pillant monastères et villages. Devenu jarl de Kattegat à la suite d'un combat singulier, ses entreprises guerrières sont depuis toujours des succès et il vise maintenant un objectif notable. La prise de la ville de Paris, berceau de la foi catholique en Occident. Nous sommes en l'an 845, sous les murs de la ville de Paris. Depuis plusieurs semaines déjà, un siège d'une grande ampleur fait rage. 120 drakkars, menés par l'insatiable Ragnar Lodbrok, tentent de percer les défenses de la plus belle ville de Francie occidentale, dirigée par Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne. Les combats font rage. Les pertes sont nombreuses des deux côtés. Et l'armée des assaillants vient de perdre son chef. Victime d'une grave blessure sous les hauts murs, Ragnar est mort. Devant son cercueil, chaque personne de sa famille vient lui rendre hommage. Sa première femme, son fils aîné, Rollo, son frère, le futur leader de la Normandie, ses guerriers, c'est une véritable procession. Surtout, le mourant a surpris tout son monde. En expirant, il a juré de mourir dans les bras de la religion catholique, abandonnant les dieux du Valhalla. Il demande par la même occasion à son adversaire, Charles le Chauve, un baptême posthume dans une église de la ville. Le monarque, devant la portée du geste, accepte. Une cérémonie des plus bizarres s'ensuit alors. Les quatre hommes qui portent le cercueil du chef viking sont entourés par les guerriers païens qui chantent et jouent des instruments ancestraux. Ils amènent leur chef, peau de bête sur les épaules, en transe, chantant et dansant aux portes de la ville. Une petite armée les attend et l'archevêque de la ville séculaire, crucifié en or en étendard, fait barrage. Derrière les guerriers, la massive porte de bois se referme et la dépouille de Ragnar pénètre dans les lieux, seulement accompagnée de ses quatre porteurs, ses meilleurs guerriers. La procession dans la vieille ville a lieu avec en tête de cortège l'homme de Dieu, qui provoque sur son passage une multitude de signes de croix de la part de la population. Et au sein de l'édifice religieux, l'aristocratie et la noblesse parisienne attendent de pied ferme. Charles le Chauve aussi, accompagné de sa fille. La messe de baptême commence. Le cercueil, fermé, trône au milieu des objets sacrés de la religion catholique et dénote par sa forme et par son héraldique issu du panthéon nordique. L'archevêque vient à peine de prononcer le premier amen que soudain, le couvercle se renverse et l'on voit surgir le héros païen. Ragnar est vivant. Il n'est pas revenu seul à la vie. Des armes sont avec lui. Ses soldats s'en saisissent. Lui se dirige vers le roi qui recule, tétanisé par cette vision d'outre-tombe. Ragnar le bloque au niveau de l'autel et plante son poignard dans le cou de l'archevêque qui s'effondre, tué sur le coup. Puis, les cinq vikings se saisissent de la fille du souverain et la prennent en otage. Direction les portes. Pourchassés par les soldats du roi, le fait de retenir sa fille contre son gré facilite leur progression. Passant le pont-levis, les nordiques coupent les cordages permettant de le remonter, rendant impossible une potentielle défense. Sans solution, autre que celle de coopérer, les officiers francs font ouvrir les portes pour permettre à Ragnar et ses sbires de sortir. Mais alors que tout porte à croire que la princesse va périr, le souverain nordique lui rend sa liberté. Elle court sur le pont entre les portes et le pont-levis. Derrière, les portes maintenant ouvertes, une armée menée par Bjorn, le fils de Ragnar, s'élance. Pour Paris, c'est une véritable catastrophe. La mise à sac de la future capitale du royaume de France est inévitable. Oh, les soldats tentent bien de se défendre comme ils le peuvent, mais c'est impossible. La force de frappe des Vikings est totalement disproportionnée. Menés par leur chef à la gloire, les Vikings s'emparent des trésors les plus clinquants. Ragnar vient de réaliser sa stratégie la plus folle. Se faire passer pour mort et contourner les défenses de ses ennemis pour mieux les vaincre. S'il veut voir Paris sauvé, Charles Chauve n'a plus d'autre choix que celui de se rendre et de verser un Dengeld, un tribut de guerre. C'est l'une des options avec les guerriers vikings. Payer pour son salut. C'est la solution qu'accepte le roi carolingien. Une somme immense de près de 7000 livres d'argent est payée pour voir les guerriers partir. Paris est sauvé, très peu abîmé par cette attaque des hommes du Nord. Mais sur le chemin du retour, Ragnar ne se fera pas prier pour attaquer les villages du Nord de la France, laissant derrière lui la mort, la désolation. À l'aller, c'est la ville de Rouen qui fut mise à sac. Au retour, les villes et villages sur leur chemin n'échapperont pas à son courroux. Son retour au Danemark est triomphal. Sa puissance a son firmament. Il n'a plus rien à prouver à personne. Et déjà, le monde a les yeux rivés vers ses fils, dont certains l'accompagnent déjà sur les champs de bataille. La gloire les attend. Des années après sa mort, Hube, l'un d'entre eux, aurait mis pied avec quelques compagnons sur le continent nord-américain. Ivar le Désossé et Bjorn Côte de Fer restent eux parmi les plus grands guerriers du panthéon nordique. Le tout, grâce au sang qui coule dans leurs veines, celui d'un certain Ragnar Lodbrok.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, notre heure H vous fait revivre l'une des sagas les plus connues de la mythologie nordique, celle de Ragnar Lodbrok, fermier devenu jarl. L'explorateur mit le premier pied en Angleterre, met à sac monastères et villes avant de s'attaquer avec succès à la Francie et ses villes de Rouen et de Paris. Ses enfants prennent le relais lorsqu'il est au firmament de sa puissance et héritent de sa gloire sans limite. Ils ponctuent de leur sang leurs propres aventures lors d'un parcours des pays du nord de l'Europe. Nous sommes le 23 avril 2015. Il est 22h30. Michael Hirst, 63 ans, la barbe blanchie par le temps, les cheveux longs sur les épaules, termine tranquillement sa tasse de thé qu'il repose sur le bras de son fauteuil Chesterfield. Sa femme dirige la télécommande vers la télé, se lève péniblement du canapé voisin et enfile ses pantoufles. Le dernier épisode de la saison vient de se terminer, la troisième. L'homme se relève aussi, malgré son arthrose au genou qui le fait souffrir à chaque fois. Son épouse le félicite chaleureusement. Ils regardent tous deux au dehors le vent qui s'est levé. On croirait presque entendre les corbeaux d'Odin annonçant l'apparition du dieu des dieux. Il serait accompagné par Ragnar, là, juste derrière le grand poirier qui trône au cœur de la propriété. Depuis presque 4 ans, la série Viking, dont Michael est le créateur, est un carton d'audience. Ce soir, les yeux perdus dans le vague, Hirst est songeur. Son personnage de Ragnar est arrivé à un tournant. Bientôt, il faudra le faire mourir. Certainement dans la saison suivante ou celle d'après. L'homme a une vision bien particulière de la mythologie nordique. Il a créé cette saga si célèbre qui met en scène le plus connu de ses héros. Mais il le dit lui-même, il n'est pas historien. Non. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le show, le spectacle. Voilà que d'un œil rieur, il tourne son regard vers son épouse en ajustant le col de sa veste en tweed. Cela voudrait-il dire que... Eh bien oui. Oui, toutes mes excuses, mais il nous a bien eus. les aventures que je viens de vous raconter, ces aventures qui sont également au cœur de l'intrigue de la série Viking, ont été bien romancées par l'espiègle créateur. Nous nous sommes laissés embarquer dans les méandres de son imagination. Oui, mais alors, quelle est la véritable histoire ? Et est-ce qu'au moins Ragnar Lodbrok a bel et bien existé ? Tous ces pillages de monastères, de villes et même celui de Paris, tout cela est-il tout droit sorti de l'esprit du malicieux britannique ? Eh bien, pas tout à fait. Tentons maintenant de revenir ensemble sur le récit de cette saga et d'en démêler le vrai du faux. Alors accrochez-vous, vous n'êtes pas au bout de l'effet de surprise. À la presse, le créateur déclare à la même période « Je ne cherche pas l'exactitude en soi ». S'il y avait une version exacte, tous les historiens seraient d'accord là-dessus et les historiens ne sont jamais d'accord. Mais je pense que ce que je recherche, c'est l'authenticité. La plausibilité, la cohérence et autant de vérité que possible dans un drame. Cela veut bien dire ce que ça veut dire. Le show, parfois, au détriment de la vérité. Oui, mais alors qui est réellement Ragnar ? Eh bien, au risque de vous décevoir, on ne sait même pas vraiment si cet homme a existé. Oui. Désolé de mettre les pieds dans le plat directement, mais une quantité d'historiens spécialisés sur le sujet parle plutôt d'un agrégat de différents grands guerriers de la période. Il suffit de calculer. En mourant en 865, Ragnar aurait vécu entre 80 et 95 ans. Ah, pas impossible, certes, mais vous en conviendrez, difficile de mener une expédition à un âge si avancé. Ou alors, cela explique bien pourquoi le grand guerrier s'est planté et a fini dans la fosse à serpents du roi de Northumbrie. Tiens d'ailleurs, cette première histoire que je vous ai racontée, est-elle vérifiable au moins ? Non, c'est terrible, mais je vais vous décevoir encore. En réalité, pas vraiment. Du moins, les uns ne sont pas d'accord avec les autres. Une version alternative existe sur la mort de Ragnar et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est moins, comment dire, puissante. Il serait mort de dysenterie à la suite d'une bataille durant laquelle il aurait été blessé. Oui, vous avez bien entendu, une sorte de diarrhée carabinée. Bon, pas super héroïque pour le descendant des dieux, là aussi vous en conviendrez. La mythologie nordique, plus encore que les autres, est un ensemble de nœuds impossibles à détacher, mélangeant sans cesse réalité et légende. Contrairement aux autres qui nous ont laissé des traces écrites, ces épopées venues du nord de l'Europe, elles, ne se sont transmises qu'à l'oral pendant des siècles, de quoi déformer quelque peu le prisme de la réalité. Prenons maintenant pour illustrer notre propos le pillage du monastère de Lindisfarne, dont nous avons parlé et qui a eu lieu en 793. Oh, rassurez-vous, Hirst n'a pas poussé le vice au point d'inventer cette attaque, non. Elle a bien eu lieu. Mais là où le bât blesse, c'est que très probablement, Ragnar lui-même n'y était pas. Et que, plus cocasse encore, il n'était même pas né. Mais les légendes qui nous parviennent de ces temps anciens et même la série qui retrace cet épisode au cœur de la saison 1 y place Ragnar comme le grand découvreur des côtes anglaises. Il semblerait, au risque encore d'éroder votre vision du personnage, que ce soit tronqué. Mais bon, maintenant, quitte à ce que vous remettiez en cause votre vision du monde viking, autant enfoncer le clou. Ou le poignard dans la plaie, si vous préférez, une image plus nordique. Cela concerne le siège de Paris. Et avant même de vous entendre grogner, oui, Ragnar a bien mis Paris à sac. Oui, oui, oui. C'était bien en 845. Mais oui, il faut bien un mais à chaque épisode dans cette version, vous l'avez déjà bien compris. À Paris, à cette période, pas de murailles, pas de pont-levis, pas même de rempart, si ce n'est de très vieilles installations romaines en piteux état. Non, la ville est totalement ouverte, et ce, parce qu'elle n'est pas encore une capitale, et qu'elle estime n'avoir rien à craindre. Alors, laissez-moi donc vous raconter les véritables histoires des mises à sac de Paris. Oui. Oui, au pluriel, les Vikings y sont venus 4 fois tout de même. 845 est le premier siège de la ville mené par Ragnar. Du moins, c'est ce que rapportent les sagas, comme on appelle les légendes nordiques. Bien. Donc, Ragnar se pointe avec sa flotte de 120 drakkars et ses 6000 hommes et pire Rouen. Jusque-là, tout va bien. Mais les armées vikings de l'époque ne sont pas des pros du siège. Bien au contraire. La force de leur impact dépend toujours d'un élément central, l'effet de surprise. Dans cette logique, Ragnar choisit donc d'attaquer de nuit, démontant les mâts de ses drakkars et inondant la plaine de ses guerriers. Charles le Chauve est encore un roi carolingien et ce sont ensuite les Capétiens qui feront de Paris la capitale fortifiée de leur royaume. Ainsi, à part quelques ponts qui sont là pour enjamber la Seine, il y a peu d'obstacles sur leur passage. Et avec une armada pareille, autant vous dire qu'ils n'ont pas fait le poids. De plus, Rouen a déjà été attaqué 4 ans plus tôt, ce qui fait que lorsque cette expédition remonte le fleuve, les Parisiens sont avertis de l'arrivée prochaine des assaillants et s'enfuient dans les terres avec leurs plus belles reliques et plus beaux trésors, vidant les monastères et évacuant même des criques, leurs navires. Ah, c'est très loin de l'image d'un siège qui dure des semaines et qui se termine par cet épisode presque mystique du cercueil païen s'ouvrant dans l'église. Là encore, les légendes s'entremêlent. Ce qui est certain, c'est que Ragnar n'est jamais entré à Paris de cette manière, ni n'a joué aux morts au moment du prétendu siège. En revanche, certaines sagas, elles, évoquent un roi, parfois Harald Ier à la belle chevelure, parfois Bjorn, le fils de Ragnar, durant un épisode similaire. La plupart évoquent Harald pénétrant dans la ville de Syracuse via ce stratagème. Mais là encore, prudence, nous ne sommes certains de rien. Les autres invasions de la capitale, notamment les dernières en 861 et 885, elles, ont lieu alors que des forteresses ont été construites. Disons donc que le créateur de la série a également rusé sur ce coup en faisant un melting pot de ces attaques qui se sont écoulées pendant presque un demi-siècle. Face à toutes ces contradictions, difficile de vous dire qui est donc vraiment Ragnar Lodbrok. Il convient de statuer en réalité qu'il est une figure semi-légendaire. C'est une saga islandaise du XIIIe siècle qui vient nous apporter ce personnage dans les mythes du nord de l'Europe. Lodbrok signifie « brévelu », un surnom reçu après un combat mythique face à 2 immenses serpents légendaires que le jeune guerrier aurait tués grâce à des brévelures. Comme il est impossible de dater avec précision sa naissance et sa mort, les historiens s'accordent à dire que ce personnage est en réalité une agrégation d'histoires multiples, ne formant plus qu'un seul héros. Par exemple, dans la série, Ragnar a un frère, Rollo, qui deviendra leader de Normandie. En réalité, ce Rollo ou Rollon a vécu 100 années après les événements traités dans la série. Impossible donc, à moins d'être propriétaire d'une machine à remonter le temps. On évoque également les figures d'Auric Ier du Danemark et d'un homme du nom de Reginerus qui attaqua Paris en 845. Nous y voilà. Ragnar serait donc bien un personnage mythifié. Le seul point d'ombre concernant cette théorie, car il en faut bien un pour entretenir le mystère, est la présence de ses fils qui, eux, ont bien existé. On date leur vie et leur mort avec beaucoup plus de précision. Ceux qu'on appelle les Ragnarsson auraient-ils vraiment été les enfants de ce guerrier légendaire? Je me contenterai d'un « peut-être » et vous laisserai le soin de creuser les différentes hypothèses que je viens de vous évoquer afin de vous laisser vous faire votre propre idée. Je vous propose donc aujourd'hui de nous quitter sur une citation attribuée à Ivar, fils de Ragnar, dans l'un des épisodes de la série Viking. Apprenant la mort de leur père, ses fils font déferler sur l'Angleterre la plus grande armée viking que le monde ait jamais vue. Ils s'exclament au cœur d'une assemblée « Au nom de notre père mort, au nom de Ragnar Lodbrok, le plus grand héros de notre pays, et au nom d'Odin, nous déclarons la guerre au monde entier. » Alors, certitude, croyance, mythe ou événement réel? C'est là toute la beauté de l'histoire, après tout. Cette recherche de la vérité dans un univers empêtré dans les légendes. Et parfois, je serai d'avis qu'il ne faut peut-être pas trop y chercher de réponse. Voilà donc pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.